c'est l'histoire d'une jeune fille d'une petite ville de Normandie qui se racontait des histoires. Celles qu'elle écrivait pour s'évader du quotidien, comme un refuge au milieu d'une forêt hostile. Celles qu'elle inventait aussi aux copains, aux professeurs, par honte de dire qui elle était. Aujourd'hui, la petite fille est devenue grande, forte aussi, de 10 ans de bataille. À 30 ans, Marie-Lou Dulac est revenue à ses rêves de gosse, parce qu'un jour ou l'autre, on revient toujours là où tout a commencé. Ce sont ces parcours de combattants que je vous invite à venir découvrir tout l'été sur France Inter. Ceux obligés de se battre pour arriver là où on ne les attendait pas, au prix parfois de sacrifices. Je vous invite à mettre la lumière sur ces compagnons de galère qui ressemblent à tant de millions d'autres. Les batailles menées, les obstacles franchis, les discriminations parfois aussi, dans une France qui a bien du mal à faire respecter l'égalité, mais où ils ont enfin trouvé leur place. Des parcours de combattants qui éclairent. La France d'aujourd'hui, la France de demain.
France Inter. Nassira El Mouadem. Parcours de combattant.
Bonjour Marie-Lou Dulac.
Bonjour.
Merci d'être en notre compagnie, bienvenue à vous. Vous avez 30 ans, vous étiez il y a encore peu chef de projet chez Ubisoft, où vous êtes occupé pendant 4 ans d'inclusion et de meilleure représentation de tous, dans la narration des jeux vidéo, dans les personnages aussi. Mais aujourd'hui, vous avez décidé de vous consacrer pleinement à l'écriture, de revenir à l'écriture, même puisque ça a été votre passion de gosse. À 17 ans à peine, vous avez même auto-édité votre premier livre. Ça s'appelait « Bienvenue à Dingopolis », un univers complètement barré, absurde, où le personnage vous ressemble beaucoup. Ado aussi, vous teniez un blog sur lequel vous racontiez votre quotidien. Pendant toutes ces années, notamment lorsque vous étiez plus jeune, qu'est-ce que vous apportait l'écriture ?
Bah, je pense que ça m'apportait plusieurs choses. La première, c'était que déjà j'avais un besoin d'écrire qui était vraiment viscéral, parce que j'ai commencé à écrire dès que j'ai su écrire. J'ai retrouvé il y a pas très longtemps le premier conte que j'ai écrit, donc je pense que je devais avoir 7 ou 8 ans.
C'était quoi l'histoire, rapidement ?
Alors le titre c'était Croque-Mitaine, je crois, et donc c'était le nom d'un dinosaure, si je me souviens bien, qui était trouvé par un petit garçon, et en fait ils devaient échapper ensemble à une vilaine sorcière, et voilà. Donc c'était un conte sur une page qui se termine bien, mais donc voilà, c'est mon tout premier écrit. Et ensuite surtout quand j'étais jeune, j'avais vraiment une très forte appétence pour le fantastique et les univers imaginaires. Donc je pense que ça venait aussi servir un besoin d'évasion, en fait.
C'est-à-dire ?
Ben, je faisais toujours vivre à mes personnages des aventures extraordinaires, dont ils sortaient victorieux, bien évidemment.
Avec des super-héros ?
Avec des super-héros, des super-pouvoirs. Et je pense que je me voyais à travers eux, c'est-à-dire que secrètement, moi aussi, je rêvais d'avoir des super-pouvoirs pour voilà devenir puissante et prendre le contrôle de ma vie.
C'est le son de l'enfance que vous avez choisi. Ce son de la cigarette qu'on allume, il raconte quoi ce son, ce bruit ?
Bah, je trouve que c'est un son qui évoque une certaine intimité, parce que ça nécessite que vous soyez seul, a priori, avec la personne qui allume sa cigarette, puisqu'on n'entend rien autour, on n'entend pas parler, on n'entend pas d'autres personnes. Donc il y a cette idée d'être à deux. Et je trouve que c'est un son qui invite à la confidence. Ça me fait beaucoup penser à mes parents, et notamment à ma mère, puisque je suis très proche de ma mère, et souvent, quand j'étais plus jeune, mais aussi toujours maintenant, elle s'allume une cigarette, on s'assoit sur le canapé et on se raconte des confidences pendant des heures. Et du coup, c'est quelque chose qu'on a continué de cultiver à la fois quand j'étais enfant, mais aussi là maintenant, à l'âge adulte.
Votre parcours de combattante à vous démarre en 1991 à Gisors, dans l'Eure, en Normandie. Vous grandissez d'abord dans un petit appartement de 30 mètres carrés avec vos deux parents, mais à 6 ans, ils se séparent et vous emménagez avec votre maman dans un HLM. Elle est synonyme de quoi, cette période, pour vous ?
Je pense que, à mon âge, à l'âge où mes parents se sont séparés, je pense que c'était surtout l'incompréhension qui dominait. Parce que d'un seul coup, je me suis retrouvée plongée dans un monde d'adultes qui avaient leur propre qui avaient leurs propres problèmes et qui traversaient voilà leurs propres difficultés. Et je pense que ça a été l'événement qui m'a sorti de l'enfance, enfin en tout cas de l'insouciance de l'enfance, parce que je me sentais dépassée par les événements. Et d'un seul coup, le cocon familial a explosé. Donc forcément, ça a généré aussi beaucoup d'inquiétudes. Mais en même temps, ma mère a toujours été très transparente avec moi sur ce qui se passait. Voilà, elle m'a expliqué pourquoi mes parents se séparaient, que c'était pas de ma faute et tout ça. Et donc, j'ai décidé de lui faire confiance et voilà, je savais qu'elle faisait ce qu'il y avait de mieux pour moi. Donc, j'ai considéré cet emménagement comme un nouveau départ.
Et c'est à ce moment-là que cela devient difficile financièrement pour votre mère, qui doit vous assumer toute seule. Et pour concilier vie de mère célibataire et vie professionnelle, eh bien, elle se met à travailler de nuit, comme ouvrière dans une usine de conditionnement de parfums. Elle fait aussi des ménages en complément. Est-ce que vous compreniez ce qui était en train de se passer?
Oui, je le comprenais. Je comprenais qu'on n'avait pas beaucoup d'argent et que ma mère devait se battre pour que j'aie une vie décente. Et je voyais surtout les efforts qu'elle faisait en fait pour arriver à tout concilier. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'étais une enfant très sage. C'est que je voulais pas causer de problème à mes parents en fait. Oui. Je voulais pas en rajouter sur la pile. Donc j'ai toujours fait en sorte de bien travailler à l'école, de d'être sage, de pas faire de bêtises parce que c'était ma manière à moi d'aider mes parents et notamment ma mère. Mais oui, du coup, chaque soir, je voyais ma mère enfourcher son vélo pour partir travailler.
Parce qu'elle n'avait pas de permis de conduire.
Oui, elle n'avait pas le permis, exactement. Et voilà, je savais qu'à partir de ce moment-là, je devais m'assumer en toute autonomie.
Et parce que du coup, effectivement, ça vous oblige à être sacrément autonome très tôt.
Oui. Oui, en fait, je savais que je n'avais pas de filet de sécurité, en quelque sorte. C'est-à-dire que d'un seul coup, je suis devenue responsable de tous mes actes au moment où j'étais seule, sans ma mère. Donc oui, d'un seul coup, ça vous fait grandir. En fait, vous vous dites, mais là, il n'y a pas papa-maman qui va me réprimander si j'ai mal fait quelque chose. Non, il faut que je fasse tout bien, sinon, en fait, il n'y a personne pour me dire pour me dire quoi faire, quoi.
Et ça correspond à une période importante de votre vie d'enfant, puisque c'est votre entrée en CP, une étape cruciale dans la scolarité. Qu'est-ce que représentait l'école pour vous?
Ah, moi, j'adorais l'école. Je me souviens quand j'étais en maternelle, j'avais hâte. Quand j'y repense, j'avais hâte de rentrer au CP pour avoir des devoirs. Comme quoi, je ne savais pas ce qui m'attendait. Mais oui, j'avais hâte d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire. Enfin, je voyais vraiment ça comme une émancipation déjà, parce que j'étais très frustrée de ne pas savoir lire. Donc j'ai voulu apprendre rapidement.
Et une bouffée d'air frais, j'imagine aussi.
Oui, aussi, oui. J'étais très curieuse, donc je voulais. J'avais plein de questions sur tout le temps. Donc l'école aussi, c'était un moyen un peu de canaliser cette curiosité intellectuelle.
Moi, comme vous, j'ai adoré l'école. J'attendais avec impatience les rentrées scolaires. L'école, pour moi, c'était l'ouverture au monde, la curiosité, l'apprentissage, des univers entiers qui s'ouvraient à moi et que je ne connaissais pas. C'était aussi des moments de jeu, d'amusement avec les copains, les copines, des moments de relâchement aussi. En revanche, le collège est plus compliqué. C'est là que les différences sociales commencent à se voir. C'est le cas pour tous les enfants partout. Hein. Ça a pesé sur l'adolescente que vous étiez? Et si oui, de quelle manière?
Oui, ça a pesé très lourdement. Parce que forcément, quand on est ado, on se cherche, on n'est pas très bien dans sa peau, le corps change, surtout en tant que jeune femme. Oui. Mais moi, en plus, j'avais cette dimension sociale par-dessus, qui faisait que j'avais du mal à m'intégrer parce que je sentais que j'étais en décalage par rapport aux autres. Typiquement, j'avais pas de vêtements de marque, voire pas de vêtements neufs tout court.
Alors qu'on sait que c'est une période de la vie, l'adolescence au collège, où les marques sont extrêmement importantes. Du coup, vous réagissiez comment, vous? Est-ce que vous étiez dans la colère vis-à-vis de votre maman, vis-à-vis des parents, de la famille?
Je ressentais pas de la colère, je ressentais de la honte, surtout. C'était vraiment le sentiment qui prédominait. Et en fait, j'en voulais pas à mes parents, parce que j'avais compris d'une manière ou d'une autre que c'était pas de leur faute. Mmh. En revanche, ça m'a amenée à beaucoup mentir.
C'est-à-dire?
En fait, j'essayais au maximum de cacher ma condition.
Alors, qu'est-ce que vous disiez?
Bah, typiquement, j'inventais des excuses pour ne pas aller aux anniversaires, pour ne pas avoir acheté de cadeaux. Je me souviens, un jour, j'étais venue avec un pantalon, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais j'étais venue avec un pantalon qui avait un patch cousu dessus. En fait, c'était un pantalon d'occasion qui avait été rapiécé. Et j'ai mon amie, d'école me dit mais je l'ai vu ce pantalon dans tel magasin, mais par contre il avait pas le patch sur le genou. Et en fait j'ai inventé un truc en disant que c'était une autre collection, etc., pour ne pas dire que c'était un pantalon d'occasion,
au point même de ne pas vouloir aller à la cantine.
Ouais.
Pas uniquement pour des questions financières.
Ouais, je voulais pas aller à la cantine parce que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué en primaire. En fait, c'était les professeurs directement qui demandaient l'argent de la cantine devant toute la classe. Et parfois, les finances de ma mère ne suivaient pas toujours, dans le bon timing. Et à chaque fois, j'étais obligée de dire, non, j'ai pas l'argent de la cantine. Et le professeur disait, ah oui, mais t'as déjà X jours de retard.
Devant tout le monde.
Devant tout le monde. Et c'était vraiment une humiliation parce qu'en fait, j'avais deux options. C'était soit je disais que j'avais oublié, ou ça, je disais que je ne pouvais pas payer, parce que ma mère ne pouvait pas payer, et je préférais dire que j'oubliais.
Qu'est-ce que ces difficultés ont comme impact sur la fille que vous étiez? Est-ce que vous vous disiez, c'est trop compliqué, moi je vais jamais y arriver, ou bien j'ai pas le choix de réussir?
Je pense que j'étais un peu en balancier entre les deux. Parfois je me disais, j'ai pas d'autre option que de réussir, parce que je veux pouvoir choisir ma vie. Mais en même temps, je me disais, quand je regardais objectivement ma situation, je me disais, mais c'est impossible, je vais jamais pouvoir faire d'études. Déjà, je doutais sur les capacités financières de ma famille à assumer mes études. Mais même moi, je me disais, ça se trouve, en fait, je suis pas capable de suivre des études supérieures.
Il y a l'écriture, on le disait tout à l'heure. Et puis, il y a aussi les jeux vidéo qui vous permettent de vous échapper de ce quotidien. Et dans les personnages de ces jeux vidéo, il y en a une qui compte pour la jeune fille que vous étiez. Elle s'appelle Lara Croft, héroïne du jeu vidéo Tomb Raider depuis 1996.
Comme je ne pouvais m'arrêter pour la mort, aimablement, elle s'arrêta pour moi. La calèche ne contenait que nous deux.
Alors, si ça, c'est pas de l'action.
Ah oui.
Dans la tête de la gamine que vous étiez à l'époque, elle représentait quoi pour vous, Lara Croft?
Ah, pour moi, c'était un modèle absolu, Parce que, on connaît Lara Croft guerrière, on connaît Lara Croft icône sexy, mais en fait, à la base, Lara Croft, c'est une archéologue, même si elle penche plutôt quand même du côté des pilleurs, des chasseurs et des pilleurs de trésors. Mais elle était archéologue et moi je pensais qu'archéologue c'était ça en fait comme métier, donc je voulais absolument devenir archéologue. Et en même temps elle avait ce côté aventurier, peur de rien, qui terrassait un à un tous ses ennemis, à explorer des endroits fabuleux. Enfin, pour moi c'était vraiment l'objectif ultime à atteindre.
Vous commencez à étouffer à Gisors, dans cette petite ville de Normandie. Vous avez l'impression d'avoir fait le tour, vous vous ennuyez. Il n'y a plus de débouchés, la ville se désindustrialise, comme beaucoup. Elle devient une ville dortoir pour ceux qui vont travailler à Paris, située à 1h30 de là. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de mettre les voiles. Vous êtes en terminale littéraire et il se passe un déclic au moment où votre professeur d'histoire, Monsieur Dumez, vous rend une copie excellente et il vous lance sur le de la plaisanterie, toi, si tu ne vas pas en prépa, je te mets une claque. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là?
Ça m'a profondément interpellée, parce que c'était un professeur que j'estimais énormément. Et pour moi, le fait qu'il m'accorde sa confiance d'une manière assez drôle, ça m'a fait me dire, mais en fait, il y a quelqu'un sur cette terre qui croit en moi et qui n'est pas mon père ou ma mère, parce que, évidemment, leur avis comptait, mais Là, c'était un professeur donc, qui incarnait une figure de l'autorité, mais aussi une certaine forme d'élite intellectuelle. Et je me suis dit, ok, donc s'il me dit ça, c'est peut-être que je dois prendre son conseil au sérieux.
C'est peut-être qu'il a raison, en fait.
C'est peut-être qu'il a raison.
C'est le grand saut, celui de la prépa littéraire au lycée Jeanne d'Arc à Rouen. En réalité, ce n'est que le début d'un autre parcours semé d'embûches. C'était Rodéo, signé Hervé.
Nassira El Mouadem. Parcours de combattant sur France Inter.
Avant de continuer à dérouler avec vous votre parcours, Marie-Lou Dulac, quelques mots pour remercier Valentine Cheudebois à la programmation musicale. Remercier également Mao de Butler qui m'a aidé à préparer cette émission. Fanny Cohen-Moreau qui la réalise et Rémi Sistiaga à la technique. Vous débarquez en classe prépa littéraire à Rouen. Et qu'est-ce qui est le plus dur pour vous en rejoignant ces classes élitistes que vous ne connaissiez pas?
Je pense que ce qui a été le plus difficile, ça a été de comprendre qu'il existait des codes que je ne connaissais pas, des codes sociaux. Parce qu'en plus, moi, j'ai vraiment débarqué comme sur une planète alien, c'est-à-dire que je ne connaissais absolument rien à la prépa. J'avais à peine compris qu'il fallait préparer un concours à la fin, c'est pour dire. Et j'étais étonnée, par exemple, de ravoir du latin. J'étais pas très contente. Ma naïveté, mon innocence m'a conduite à être confrontée parfois un peu au mépris de mes camarades, puisque en prépa littéraire, surtout, il y a beaucoup d'enfants de profs et de profs qui sont passés par l'école normale supérieure qu'on prépare.
Comment il s'exprimait, ce mépris?
C'était le premier jour c'était le jour de la rentrée. Il y avait une de mes camarades à côté de moi et l'un des professeurs présentait le programme de l'année. Et moi, je me tourne vers elle, et voilà, et je lui lance, mais on va avoir du latin. Et elle m'a regardé en me disant, bah oui. Mais en vraiment me prenant de haut et en se disant, mais comment elle a pu être admise dans cette prépa, celle-là, elle a l'air d'être complètement dans la lune. Bah oui, c'est là que j'ai expérimenté pour la première fois le mépris de classe. Parce qu'au-delà de voilà mon manque de connaissances sur la prépa en tant que telle, j'avais pas certaines références culturelles, j'avais pas baigné voilà dans les classiques de la Pléiade toute mon enfance, donc forcément il me manquait un certain nombre de références et on me le faisait sentir.
Comment vous réagissiez? Vous vous mettiez un petit peu de côté ou vous essayiez tant bien que mal de vous adapter?
Alors j'ai réagi par la suradaptation. En fait, je me suis mise à lire à toute allure tout un tas de livres pour essayer de combler les lacunes. Voilà, comme si j'avais pas assez de travail en prépa. Donc,
c'est
voilà,
sûr, il y en a pas assez.
Ouais, c'est ça. Donc, je me coltinais les Zola, les Balzac, etc. pour essayer de rattraper un peu le retard. Mais du coup, j'étais très très réservée. En fait, j'étais souvent dans une posture d'observation pour ne pas être démasqué.
Ouais. Alors c'est marrant, mais moi je réagissais différemment. Je me mettais plutôt à l'écart. Je ne voulais pas trop me forcer parce que j'étais tout simplement pas bien. J'étais pas à l'aise. Je ne voulais pas non plus faire semblant. Je me disais aussi que ça ne servait à rien, que faire des efforts ne les changerait pas, que le système était beaucoup trop puissant. Et puis surtout, j'étais minoritaire et je me disais que de toute façon, seule face à tout ce système, face à tout cela, eh bien, ça ne permettrait pas de faire changer les choses. Donc moi, j'avais plutôt tendance à rester de mon côté et à ne pas m'adapter ou à ne pas me suradapter comme vous. Vous vous retrouvez ensuite à Paris, où vous suivez un master en médiation culturelle. Et financièrement, alors ça devient très très difficile. Vos parents ne peuvent évidemment pas vous aider, on l'a vu. Comment vous réussissez à vous débrouiller?
Ça a été effectivement très compliqué. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu aller à Paris en premier lieu pour mes études. Mais il s'avère que la médiation culturelle, c'était à Paris, donc j'avais pas trop le choix que de quitter Rouen. Donc je me doutais déjà que financièrement ça allait être compliqué effectivement, et là pour m'en sortir, ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à travailler dès que j'ai pu, donc en faisant des petits boulots, comme j'étais à la fac, j'avais quand même beaucoup de temps libre, donc là j'ai fait vraiment des jobs divers et variés, j'ai donné des cours, j'ai été vendeuse, j'ai travaillé comme hôtesse événementielle, enfin voilà, tout ce que je pouvais trouver je le prenais.
On est de la même équipe, j'étais les mêmes.
Mais bon, c'était parfois pas suffisant et il y a quand même eu un moment où je me suis retrouvée interdit bancaire, ouais. Parce que je payais beaucoup par chèque quand je savais que j'allais avoir ma bourse la semaine suivante typiquement. Sauf que parfois, ça passait pas et oui, je me suis retrouvée quand même dans des situations un peu difficiles.
Et vous avez été jusqu'à frauder les transports et je l'ai moi-même vécu. J'ai été donc étudiante à l'école supérieure de journalisme de Lille. J'avais épuisé mes droits à la bourse Crous à l'époque. Je travaillais la nuit, les week-ends pour financer mes études. Et donc, je fraudais aussi. Et j'avais même reçu des courriers d'huissier car je n'arrivais pas à payer mes loyers. Donc, je comprends parfaitement ce que vous avez vécu. À quel point ça a été dur psychologiquement pour vous? Et à qui vous arriviez à vous confier sur ces difficultés?
Je pense que ça dépendait des périodes, mais le plus dur c'était l'été, parce que la bourse du Crous s'arrête en juin et reprend en septembre, et du coup vous avez 2 mois où vous devez financer votre logement que vous ne voulez pas perdre pour l'année suivante.
Enfin, en septembre, les meilleures années,
oui.
Parce que parfois ça arrivait en octobre.
Ouais, c'est vrai. Donc l'été c'était toujours une période très critique, et je me souviens d'un moment très précis où je cherchais du travail, je déposais des CV partout. D'ailleurs, je mentais sur mon CV aussi, ça faisait partie des petites combines pour essayer de m'en sortir.
On est nombreux à vous à l'avoir fait.
J'avais déjà fait de la vente pour décrocher un job dans la vente et je trouvais rien en fait, je me prenais des refus de partout. Et c'était un moment où j'avais plus rien dans le frigo, donc j'étais en train de me faire du riz blanc, je me souviens, à la casserole avec rien puisque j'avais rien à mettre dedans. Et là, en fait, j'ai lâché la casserole et je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit, mais je vais pas y arriver. En fait, là, c'est trop pour moi. Et à ce moment-là, m'a traversé l'idée de tout abandonner, oui. Et de chercher un travail et de juste laisser tomber les études.
Mais vous rebondissez, vous candidatez à la prépa égalité des chances d'une des plus grandes écoles de commerce française, l'ESSEC. C'est assez étonnant quand on découvre votre parcours avec vous et on le verra ensuite. L'entretien se fait avec la responsable du programme qui, pur hasard de la vie, a étudié au même lycée que le vôtre à Gisors. Elle s'appelle Marie Morlet et elle vous a laissé un message vocal.
Quel plaisir, ma chère Marie-Lou, d'évoquer notre entretien. C'était il y a 8 ans, un matin, dans un café parisien. Je sais que tu t'en souviens. Je travaillais à l'ESSEC et m'occupais de CAPESSEC, une prépa égalité des chances au concours d'entrée à cette grande école de commerce. Toi, tu étais candidate, tu m'as raconté ton parcours, tu m'as parlé de ton projet du bout des lèvres, mais je t'ai écoutée et tu m'as convaincue. C'est donc ce jour-là et tout au long de l'année scolaire qui a suivi que j'ai appris à te connaître. Tu avais 22 ans et déjà tu avais écrit un livre, rédigé des articles dans une feuille de chou locale, l'Impartial, réalisé des stages, enchaîné les jobs étudiants et un parcours universitaire déjà brillant. Tu étais créative, tu l'es toujours je pense, sincère, travailleuse, tu avais donc de toute évidence de très grandes qualités pour réussir ce concours exigeant mais aussi pour réussir ta vie professionnelle. Mais il allait falloir t'accompagner pour que tu en sois toi-même convaincue. Toi, jeune fille, littéraire, gisorsienne et boursière. Tu as réussi, tu t'es engagée et aujourd'hui tu témoignes de ton parcours. Il inspirera, j'en suis sûre, plein d'autres étudiants. Donc merci à toi et à très bientôt.
Je vous voyais acquiescer quand elle disait qu'il avait fallu vous accompagner pour vous convaincre.
Oui.
C'est ce qu'elle a réussi à faire.
Oui, elle fait partie de ces personnes très bienveillantes qui ont croisé ma route et qui m'ont aidée à croire en moi. Quand moi, je croyais pas en moi. Et oui, enfin, je me souviens effectivement de cette préparation de concours où j'y étais allée un petit peu sans trop savoir, pourquoi. Et en me disant surtout littéraire que je suis.
Et oui.
Comment je vais réussir à entrer dans une école de commerce aussi prestigieuse que l'ESSEC en plus. Et oui, Marie m'a beaucoup aidée, m'a beaucoup encouragée et ça. Ça fait partie des choses très précieuses que je garderai toute ma vie.
Et vous y arrivez donc à entrer à l'ESSEC, cette grande école de commerce très prestigieuse. Vous êtes obligée de travailler énormément pour rattraper votre retard par rapport aux autres étudiants.
Oui, en fait l'ESSEC c'est une école de commerce qui a la réputation d'être plus matheuse que les autres. Et moi les maths j'avais arrêté d'en faire en première, donc autant vous dire que c'était un peu douloureux de reprendre tout ça et oui, il y a notamment eu le premier trimestre de cours où j'étais complètement larguée et je me disais mais qu'est-ce que je fais là, enfin encore une fois j'ai eu l'envie d'abandonner à un moment et de repartir à la fac. Et pour le coup, j'avais une carotte qui m'a fait rester, qui est très triviale. Mais en fait, j'avais été admise à un échange à Singapour. Et je me suis dit, bon, c'est quand même cool de partir en Asie. Allez, accroche-toi et ça va le faire. Et ça l'a fait. Donc, je suis contente de ne pas avoir lâché à ce moment-là.
Et c'est aussi très difficile en raison toujours de ce moule sociologique de l'école de commerce. De quelle manière c'est encore plus difficile à l'ESSEC que ça ne l'était déjà à la prépa?
Je trouvais qu'il y avait quand même plus de mixité en prépa, même si c'était, ça restait quand même des personnes qui venaient de milieux, soit de classe moyenne ou de milieux aisés. Tandis qu'à l'ESSEC, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus homogène. Et avec un mépris de classe, mais assumé. C'est-à-dire que, quand j'étais en prépa, je ressentais ce mépris, mais il était beaucoup moins, il était beaucoup plus pernicieux et pas forcément volontaire, alors que là, pour certaines personnes, c'était le cas. C'est-à-dire que j'ai rencontré plusieurs personnes qui comprenaient pas pourquoi l'ESSEC avait mis en place un programme d'égalité des chances, pourquoi on faisait venir des boursiers.
Et on vous le disait expressément ?
Oui, j'ai l'expérience d'une amie qui était à une soirée d'admission, où tous les nouveaux admis étaient réunis. Et en fait, elle a dit à un des nouveaux admis de l'ESSEC qu'elle avait fait CAPESSEC.
Donc la fameuse prépa égalité des chances.
Exactement. Et cette personne s'est tournée vers son camarade et lui a dit « On va se retrouver avec ça. »
Sympa.
Sympa, voilà. Et ça a ponctué toute ma scolarité à l'ESSEC.
Et s'il y a bien une chanson que vous écoutez lors des gros moments de doute et de galère, comme celui que vous venez de décrire, eh bien c'est celle-ci.
My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs.
My love has got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? Free from desire, mind and senses purify.
C'était Freed from Desire de Gala.
France Inter, parcours de combattant, Nassira El Mouadem.
Bon, vous nous avez mis une pêche d'enfer, Marie-Lou Dulac, avec le choix de cette chanson. Elle signifie quoi, celle-ci ?
Bah déjà, c'est une chanson qui vient du fin fond des années 90, de l'Eurodance, donc je trouve qu'il y a une dimension nostalgique que
1996,
j'aime
précisément.
Oui. Et oui, donc j'avais 5 ans et je l'adorais déjà à l'époque. Et ensuite, j'aime bien son côté festif. C'est la chanson phare que j'ai avec ma meilleure amie et quand on l'écoute, on se met à danser. Donc voilà, c'est synonyme de beaucoup de joie. Et aussi, a posteriori, je me suis penchée sur les paroles que je trouve toujours aussi mystérieuses. Mais voilà, il y a une dimension un peu bouddhiste dans les paroles. Voilà, libérer du désir, mind and senses purified. Donc voilà, les sens, l'esprit purifié. Enfin, du coup, j'aime bien. Il y a une dimension un peu spirituelle qui dénote complètement avec le style de la chanson. Donc c'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup.
Qui demande la suppression des postes, c'est pour qu'on soit à 65 par classe, c'est n'importe quoi. Manifeste pour avoir des moyens dans l'éducation nationale, pour avoir des postes, on veut pas, on est contre les suppressions de postes parce que je pense que c'est indispensable pour une éducation de qualité. Le gouvernement fait la distinction entre quantité et qualité.
Nous sommes en avril 2008, des milliers de lycéens manifestent partout en France pour dire non à la réforme du ministre de l'Éducation nationale Xavier Darcos, qui en plus de vouloir supprimer de nombreux postes, souhaite supprimer les filières littéraires, scientifiques, économiques et sociales du lycée. Vous aviez 17 ans à l'époque et vous aussi vous défiliez. Qu'est-ce qu'elle a représenté pour vous, cette mobilisation ?
Je pense qu'elle représente le début de ma conscience politique. J'étais dans un lycée qui était très peu politisé. Et je voyais la politique de notre pays se dérouler sous mes yeux à la télévision. Et je me sentais très loin de tout ça, en fait, parce que je voyais pas de là où j'étais comment je pouvais agir en tant que citoyenne.
Et là, vous vous sentiez concernée?
Exactement. Je me sentais concernée. Et pour la première fois, il y a eu un sitting devant mon lycée à Gisors, auquel j'ai participé. Et je me suis dit, OK, donc ça veut dire que même moi qui ai 17 ans, qui n'ai pas encore le droit de voter, je peux agir et je peux faire plier le gouvernement.
Ouais. Et les suppressions des filières ont eu lieu non pas avec Monsieur Darcos, mais avec Monsieur Blanquer. La France reste l'un des pays qui produit le plus d'inégalités scolaires, bien au-delà des seules performances, difficultés de lecture, voire même illettrisme. C'est d'ailleurs le système éducatif français lui-même qui les crée. Comment vivez-vous le fait que la situation s'est aggravée depuis votre enfance, que c'est donc le système français qui produit tout cela et qu'il est encore plus difficile aujourd'hui d'avoir des parcours comme le vôtre?
Moi, je trouve ça intolérable. Tout simplement parce que on est dans un pays qui prône l'égalité des chances et qui prône la réussite par l'école. Et moi, c'est aussi ce en quoi j'ai cru quand je me suis investie de toute mon âme à l'école. Donc de me dire que pour un certain nombre de personnes, et même pour en fait la majorité des personnes qui viennent de milieux populaires, voire modestes, voire pauvres, c'est pas le cas.
Vous diriez quoi? Que c'est la République qui ment? La République a menti à ses enfants?
Oui, la République a menti, et surtout la République continue de mentir en nous faisant miroiter le mythe de la méritocratie. Et moi, je parle de moi-même en disant que je suis un contre-exemple, et non pas l'exemple de quelque chose qu'il faudrait suivre, parce qu'en fait, j'ai rencontré tellement d'obstacles sur ma route qu'en fait, c'est presque miraculeux que j'ai réussi à sortir de mon milieu social.
C'est la raison pour laquelle vous êtes très engagée sur ces questions d'éducation et d'inégalité au sein d'Article 1, une association engagée en faveur de l'égalité des chances à l'école et qui soutient les élèves issus des milieux populaires, mais aussi auprès de l'ONG One, luttant contre la pauvreté et pour laquelle vous êtes jeune ambassadrice. Qu'est-ce qui vous anime dans tous ces engagements ?
La première chose, c'est j'ai l'impression de devoir rendre quelque chose qu'on m'a donné, puisque j'ai été bénéficiaire de l'association Article 1 pendant toutes mes études. J'ai eu un mentor qui m'a suivi pour m'accompagner dans mes moments de doute, notamment. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, je peux pas rester les bras croisés en voyant tout ce qui se passe. J'ai vraiment cette colère qui est en moi et qui est présente depuis mon adolescence, je pense. Et pour moi, c'est une manière de transformer cette colère en quelque chose de créateur et de positif. Et comme le gouvernement, l'État ne suffisent pas toujours à combler les inégalités, je pense que c'est important que la société civile aussi s'investisse, et du coup, je veux en faire partie.
Si vous pouviez retrouver la petite fille de Gisors que vous étiez à l'époque, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Je lui dirais que ça va aller, tout simplement. Je lui prendrais les mains, je la regarderais droit dans les yeux et je lui dirais « fais confiance, ça va aller ». Puisque ce qui m'a manqué, surtout quand j'étais plus jeune, c'était la confiance en moi, bien évidemment, mais c'était aussi la confiance en l'avenir. Tout était incertain, tout était périlleux, et j'avais l'impression que j'allais trébucher à chaque pas. Alors que finalement, même si parfois j'ai pris des chemins un peu de traverse, j'ai toujours réussi à avancer, et c'est ce qui compte finalement.
Avancer pour vous, c'est revenir à l'écriture, l'écriture que vous aviez commencé toute jeune. Vous en êtes où de vos projets ?
Alors là, j'ai terminé un roman pendant le confinement, donc mon deuxième roman, qui est sur les piles, sur les piles des manuscrits des éditeurs. D'ailleurs, s'il y a des éditeurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à consulter le manuscrit Les Temps de l'eau si vous l'avez reçu.
Et alors, le pitch du livre, c'est quoi ?
Alors, ça se passe dans un monde imaginaire, sur une île au milieu d'un océan déchaîné. Et c'est l'histoire d'une princesse déchue qui a été évincée du trône par son frère aîné. Et donc c'est l'histoire de sa reconquête du pouvoir sur fond d'effondrement, puisque la civilisation dans laquelle elle vit connaît la raréfaction des ressources, la pollution des océans, etc. Donc voilà, il y a à la fois l'histoire individuelle de ce personnage et en même temps l'histoire du destin du peuple.
Qui ressemble beaucoup à ce qu'on connaît.
Oui, toute ressemblance avec la réalité est fortuite. Voilà, c'est ça le pitch.
L'histoire, c'est quoi? C'est d'en faire une série
Oui, l'idée, c'est d'en faire une trilogie. Et sinon, je pense que je vais me consacrer à de nouveaux projets, parce que là, j'ai vraiment l'intention de me reconnecter à ce rêve profond, puisque finalement, écrire, c'est vraiment ce qui me permet d'être profondément moi-même.
Et c'est ce qu'on vous souhaite. Vraiment, un grand merci, Marie-Lou Dulac, d'avoir accepté de nous faire rentrer dans votre parcours de combattante. Je suis impatiente de lire votre prochain livre. Bonne chance donc pour cette nouvelle vie d'écriture à temps plein, qui, je l'espère, vous procurera autant de plaisir que vous en aviez quand vous étiez jeune. Quant à vous, chers auditeurs, vous pouvez retrouver toutes les autres émissions de Parcours de combattant sur le site internet de France Inter et sur l'application de Radio France, et réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Parcours de combattant. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 14h, pour une nouvelle rencontre avec un combattant. C'était Michel de Fio.